Cette semaine, Sylvain Bourmeau rencontre Jean-Claude Passeron. Ce soir, l'arrière-pays niçois de l'enfance.
Jean-Claude Passeron, bonjour. Vous êtes sociologue. Vous êtes né en 1930 à Nice. Vous êtes connu pour un certain nombre d'ouvrages considérés aujourd'hui comme des classiques de la discipline sociologique et plus largement des sciences sociales. Des ouvrages qui s'intéressent à l'épistémologie des sciences sociales. Je pense en particulier à un grand livre, Le raisonnement sociologique, que vous avez publié au tout début des années 90 et que vous avez modifié par la suite. On y reviendra vers la fin de cette série à voix nue. Et puis, vous êtes aussi le co-auteur avec Pierre Bourdieu de deux livres qui sont des livres importants des années 60-70 sur la sociologie de l'éducation, Les héritiers, La reproduction.
Trois, dirais-je, parce que celui qui fera coupure et sur lequel vous allez rebondir, j'entends bien, c'est le métier de sociologue.
Que vous avez coécrit également avec Jean-Claude Chambordon.
On était trois, et qui est un textbook, mais qui en fait était un petit manifeste épistémologique avec lequel j'ai pris progressivement, d'un seul coup plutôt, mes distances en 1971.
Un livre dont je me souviens que pour son 30e anniversaire, à la suite dans les idées, vous m'expliquiez que vous aviez corrigé les épreuves avec Pierre Bourdieu dans un café de la rue de Tournon, alors même qu'il y avait ce mouvement étudiant et que vous, vous étiez préoccupé par une chose qui était la science et ce
livre. La science sociologique, nous y croyons tous les deux. C'est pas que j'y ai cru moins longtemps que Bourdieu, qui est devenu de plus en plus l'auteur d'une sociologie originale, générale, catégorique, mais disons que j'ai mis de l'eau, pour parler vite, disons relativiste sur ce qu'est la vérité en sociologie, ce que c'est parler vrai en sociologie, et ce que c'est aussi dans l'ensemble des sciences qu'à partir de ce moment-là j'ai appelé historique.
J'aimerais qu'on commence par un petit peu de géographie. Je le disais, vous êtes né à Nice. Vous vivez maintenant depuis 1981 à Marseille. Vous avez fait le déplacement à Paris pour enregistrer cette émission. Mais le premier déplacement à Paris que vous avez fait depuis les bords de la Méditerranée, c'était lorsque vous êtes arrivé en Cagne au lycée Henri IV après avoir passé votre jeunesse dans cette ville de Nice. Qu'est-ce que c'était qu'arriver à Paris à la fin des années 40 ?
Paris, sans remonter jusqu'à la description par Balzac de Paris et de la province, je venais du plus lointain, du plus long voyage en train, d'une province française, les Alpes-Maritimes, qui d'ailleurs ne sont définitivement dans l'espace français que depuis le rattachement de 1860, et donc mon origine, soit du côté italien, soit du côté provençal, me rattache à cette région. D'où, pour la première fois, je me déplace pour entrer en Cagne à Paris, en 1949-50, puisque j'avais, après un passage parfaitement acculturé au lycée de Nice, et donc les bacs avec les mentions qui conviennent, j'avais, au lieu de partir à Lyon, comme on l'avait prévu, par prudence de ma mère surtout, qui s'occupait de mes études, institutrice, au lieu d'aller à Lyon, il se créait cette année-là une hypocagne, classe préparatoire à la Cagne, à Nice. Et donc j'ai fait une hypocagne à Nice, et toujours là, c'est pareil, on peut y revenir en quelques mots, pour l'heure, mes déplacements géographiques n'allaient jamais au-delà de Cannes, où étaient des proches parents des familles de ma mère, du haut montagneux des Alpes-Maritimes, où était la famille paysanne, pauvre, de montagne méditerranéenne, au-dessus de 1100 mètres. Et pour la première fois, me voilà dans le train, avec ma mère qui m'a accompagné, pour que j'entre à l'internat d'Henri IV. Je n'avais jamais été interne non plus. J'avais 17 ans. Et donc, c'est la première fois où j'ai vu défiler ces gares à cette époque, qui étaient nombreuses, bien avant le TGV, où on s'arrête dans la nuit à Cannes, puis à Toulon, puis à Marseille, et puis, en fait, il y a le café à Dijon, on le prend sur les quais. Pour moi, c'était la découverte du mouvement géographique. Alors peut-être ensuite ai-je voulu l'accentuer en voyageant beaucoup.
Donc vous êtes originaire de Nice, de cette région, et enraciné, enfin vous vous sentez méridional, Jean-Claude Passeron.
Oui, ne serait-ce, je suis pas le seul. Venn doit être pareil, parce que nous nous sommes connus ensuite beaucoup, à Henri IV et à l'école normale.
Paul Venn.
Paul Venn aussi a dû faire de gros efforts, pas les mêmes, pour effacer, pour gommer l'accent méridional, l'ouverture des hauts et tout ce qu'on veut. Et c'est pas la même chose qu'il faut corriger quand on est originaire de Nice. Moi, je dirais presque que c'est pire parce que l'accent en français, même en français méridionalisé de Nice, sans parler du Nissard que j'entends aussi, est encore plus étrange pour un français, enfin plus risible pour parler vite, à l'écoute de l'intelligentsia parisienne, si on peut dire, à la différence de l'accent du sud-ouest, dont j'ai connu beaucoup de représentants, qui ne craignent pas. Et j'en ai connu dans toutes les institutions de haut niveau, soit scolaire, soit politique, et de perpétuer, avec un certain orgueil, leur accent du sud-ouest, j'allais dire indépendantiste, il n'est plus depuis certaines croisades, mais l'accent du sud-ouest, enfin, outre chez certains présidents, comme Vincent Auriol, chez des anthropologues, de mes amis, on le revendique. Tandis que l'accent niçois, l'accent toulonnais, l'accent marseillais, Venn, c'est l'accent provençal, disons, d'Orange, auprès de dont il est originaire, aussi, est très provençal. Et bon, il n'entrera pas dans les détails, mais je connais beaucoup de condisciples. Pour prendre l'exemple d'un ami que j'ai croisé en Cagne, puis à Normal, qui faisait des lettres de la littérature française, et Weiss, précisément, d'origine très populaire, fils d'un salarié agricole et d'une mère sachant lire, son père ne le sachant pas, mais qui, évoluant dans le lycée, puis vers la Cagne de Marseille, je crois, les répétitions pour le latin, de sa mère qui ne le savait pas, mais étaient les questions étaient posées par son père, la mère avait le dictionnaire Gaffio entre les mains, et le père, quand il lui a fait apprendre le Gaffio par cœur, comme ça, ce qui est quand même un avantage pour faire des versions latines, jusque très haut situées, et il lui tapait des coups de Gaffio, disait-il, sur la tête, quand il se trompait. Voilà, un apprentissage d'ascension sociale par l'école qui m'avait frappé, et en liaison avec ces accents du Midi, qui, quand vous arrivez à Paris... Moi, je l'avais effacé à Nice parce que j'avais eu un lycée où les profs de lettres, brillants, mais ayant vraiment l'accent parisien, étaient nommés à Nice, qui était assez recherché, et voilà, avaient un accent parfait. Et parmi les imitations, comme plus tard j'imiterai, ayant été frappé en Cagne par Beaufray, parlant de la philosophie, que j'imiterai assez facilement dans mes premières... dans le ton, l'accent suprasémantique de Beaufray que j'imiterai dans mes premiers enseignements. De même, j'imitais le parler serré de mes profs de français au lycée de Nice. Et donc, j'ai l'impression d'avoir travaillé très tôt à le gommer.
Vous parliez, Jean-Claude Passeron, de ce condisciple dont les parents ont appris le latin... par une division du travail entre la mère et le père, et puis les coups de Gaffio. Vous disiez tout à l'heure que votre mère vous a accompagné en Cagne, que c'est elle, institutrice, oui, qui s'occupait de vos études. Comment ça se passait chez vous?
Voilà, ben on peut partir de là, puisque c'est l'endroit d'où l'on vient, comme dit Hogarth, home, d'où je suis sorti. Enfin, ça commence à l'embryologie, dit-on aujourd'hui, donc du ventre de ma mère, mais ensuite... je suis dans une situation un peu particulière, ce qui me fait toujours hésiter, au sens des catégories de la sociologie, si je dis que je suis d'origine populaire, ou paysanne, ou petite bourgeoise. Donc, ma mère, institutrice des anciennes promotions, puisqu'elle est née en 1902, et a failli vivre un siècle, elle est morte avant ses 100 ans, à Marseille, où elle m'avait suivi, finalement, quand j'ai pris un poste de prof de philo, ma mère était de cette génération féminines, mais qu'on peut appeler encore les hussards noirs de la République. Une école normale d'instituteurs à Nice, alors qu'elle était originaire de Valoris, Golfe-Juan, de l'autre côté du Var, et qu'elle était d'origine populaire, artisanale, mais elle, ayant franchi cette ascension sociale brillamment, en sorte qu'elle a même regretté, après l'école normale, en s'apercevant qu'il aurait suffi qu'elle fasse... Alors elle a essayé même de faire du latin par correspondance pour passer le bac. Et donc, mais elle a dû abandonner, étant nommée, difficilement d'ailleurs, après la guerre de 14, dans un poste de très haute montagne. Et quand l'année d'après, elle arrive à un poste de moins haute montagne, elle rencontre mon père, jeune fils de paysan, mais de paysan aubergiste de ce village, et qui rentrait lui-même de faire un service militaire en Algérie, mais en 1929, et donc dans son uniforme de zouave, je crois, qui figurait dans les couloirs de l'hôtel, etc., avait un certain prestige, mais qui a fait la cour à ma mère, dans l'école en face, pendant les récréations, et comme ils se sont mariés, dans une configuration où elle était plus âgée de 4 ans que mon père, ce qui, surtout dans ces milieux populaires, est rare ici. Elle était évidemment institutrice, alors qu'il n'avait que le certificat d'études. Et ensuite, par le grand-père, qui est aubergiste et paysan, mais un peu... Mon grand-père Justin Passeron, qui était un peu agent électoral à l'époque, là, dans cet hôtel auberge, qui avait des relations. Et donc, qui a placé, outre mon père, tous les enfants de l'assistance. C'était très désintéressé. C'est un circuit de recommandations, qui doit être fréquent bien ailleurs dans le Midi, mais dans le Sud-Ouest aussi, je connais des villages comme ça où on entrait dans les PTT. Mon père, c'était auprès des corps officiels où il garantissait qu'un tel pour les pompiers de Monaco, un tel pour les carabiniers de Monaco, mais tel autre pour les tramways, etc. Et comme mon père avait le certificat d'études, il le fait recruter comme employé de banque au Crédit Lyonnais, parce qu'il s'est marié. Donc, ça sera... Dans cet exode rural des années 30, où je nais, il s'établit à Nice. Et dans tout ce qu'il m'a toujours raconté, c'est enfin, on ne se gèle pas l'hiver. Parce que c'est le froid dans ces, surtout villages de haute montagne, où il n'y a pas de chauffage, dans les chambres, où il y a tout simplement une cheminée, un poêle en bas pour les clients de l'auberge, et une cuisine qui est un feu de cheminée. Et donc, voilà, il était content d'être dans ce climat et il a toujours été heureux de faire une carrière d'employé de banque au Crédit Lyonnais où il a fini par aboutir, étant donné son zèle et sa bonne connaissance du calcul qui se faisait à la main, de caissier depuis la vieille ville jusqu'à caissier principal de l'agence au centre de Nice où il a pris sa retraite, mais se retirant dans ce village à Scross où... Il avait gardé, on a dans le partage gardé, il a tenu à garder un morceau de jardin irrigable, outre un petit logement dans une partie de l'hôtel auberge. Voilà pourquoi, à toutes sortes d'occasions, dès mon plus jeune âge, j'ai été dans ce village, à l'occasion, soit très jeune et avant même l'école, de primo-infection qu'on ne guérissait pas. Et donc, j'allais prendre le bon air à la montagne, j'ai passé des mois, et voilà pourquoi mon acculturation, pour aller vite, est double. Le village et le quartier populaire où enseignait ma mère à Nice, suivant les saisons. Et quand j'étais malade, j'étais à la montagne. Et donc, c'est là que, différemment des copains de bande de l'école primaire de quartier populaire à Nice, Saint-Roch, Rissot, puis la Mantega, où d'enfants de l'assistance dans ce village, où j'ai eu mes premières amitiés. Par exemple, le jeune garçon qui avait exactement mon âge, qui était placé chez mon grand-père et ma grand-mère aubergiste, lui, on lui faisait manquer l'école, comme partout à cette époque, les enfants de l'assistance. Et dès l'âge de 7-8 ans, gardait les moutons, les bœufs, et même était embauché pour piocher la terre. Et donc, le soir, devant cette cheminée, c'était mon premier ami qui m'expliquait comment c'était là. Et moi, je lui expliquais comment c'était à la ville. Et ça se recoupait pas tout à fait.
Quel genre d'élève étiez-vous, Jean-Claude Passeron ?
Ben, c'est là qu'il faut parler de ma mère. Je ne sais pas comment ça a commencé. Elle m'avait appris à lire, je suppose. Oui, avant que j'entre à l'école primaire, je lisais à peu près couramment. Donc j'ai fait des études moyennes bonnes à l'école primaire, en changeant d'école plusieurs fois, selon les postes de ma mère. Mais progressivement, en aboutissant à la classe du certificat d'études, en devenant très bon. En somme, j'ai passé le certificat d'études et été classé premier du canton. Et ma mère, donc, a pensé que ce qu'elle n'avait pas pu faire, c'est elle qui a décidé. Bon, mon père suivait. Ils avaient été coopérants dans la politique de l'enfant unique, puis-je dire, pour qu'il puisse faire l'école sans restrictions financières trop lourdes, sauf à s'éloigner pour faire la médecine à Paris. Ça, c'était au-delà des moyens.
Mais ça, c'était un choix politique ?
C'est un choix familial de travail sur l'ascension sociale des enfants. Et l'enfant unique, dans les foyers populaires ou petits bourgeois, a été très répandu à cette époque et était plus ou moins en cause dans la dénatalité après la guerre de 14 d'ailleurs, dont se plaignaient les démographes et qu'ils ont surmonté. Enfin, donc que les familles françaises, que la politique démographique française a surmonté. Mais j'ai d'ailleurs eu pour amis que des enfants uniques, hein, en Cagne, normal. On est de cette génération, née en 1930, ou 29 ou 31. À cette époque, c'est ma mère qui a cessé, en somme, de regarder de trop près mes carnets de notes à partir de la quatrième, où la première coupure, c'est que j'ai tenu à faire du grec. Alors qu'elle allait aller jusqu'au latin. Ça, il fallait que je l'apprenne pour entrer en sixième. Donc, je passais un examen d'entrée en sixième. Le latin, alors, ça s'est passé le premier. C'est comme toutes les aventures scolaires. Ça s'est passé le premier semestre où ma bonne volonté, où ma docilité, où ma rapidité d'acculturation à d'autres formes grammaticales pour le latin, fait que, après avoir été 28e sur 30, parce qu'il y avait des classements tous les mois, tout d'un coup j'étais second. Et puis après ça a continué. Et le prof de latin m'a fait faire des versions plus difficiles dans un autre volume. Et donc j'arrive en cinquième, où je vois par-dessus l'époque, l'épaule, parce que je restais en étude pour bien travailler, d'un condisciple qui faisait du grec dans la section A, en quatrième, et je vois un alphabet différent, exotique. Pour moi, c'est un choc. C'est un choc de curiosité et de passion que j'ai toujours de la peine en tant que sociologue maintenant à expliquer. Parce que comment faire le partage entre les raisons d'admiration exotique, de curiosité, de lire un alphabet? Ça aurait été la même chose peut-être pour l'alphabet cyrillique, mais cet alphabet grec sur du beau papier glacé, parce que les manuels de cette époque en grec, les manuels de grec du lycée, sont sur du papier glacé, avec cette typographie qui ressort admirablement. J'ajouterais sous le soleil, j'étais au Parc Impérial, un lycée annexe, plus bourgeois si on peut dire, puisqu'il est sur les hauteurs, il y a plein de villas, et de médecins dont les fils faisaient du grec. Et j'ai eu ce choc pour le grec à cause des graphèmes, et je ne savais pas le prononcer. Mais en même temps, je sais bien que c'était un truc que je disais à ma mère, non, je ne peux pas, si ce n'est pas français, latin, grec, je ne passerai jamais l'agrégation. Or, c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais vraiment pensé à l'agrégation, mais je ne sais pas, un poste intermédiaire au-dessus, et qu'elle a résisté en me disant, tu es sûr, oh ben, on verra bien.
Ça voulait dire que vous aviez déjà envie d'être enseignant.
Voilà, c'est ça.
Mais à quoi remonte cette vocation
en même temps, c'était un coup de foudre littéraire. Et j'ai toujours aimé le grec, et je ne sais pas pour lesquelles de ces deux raisons. Et ensuite, c'est plutôt en grec qu'en latin que j'ai effectivement eu des résultats, par exemple au concours général, alors que en latin, ça m'a jamais passionné. Et ça a continué ensuite à travers ma préférence pour Platon plutôt que pour la prose de Cicéron quand j'étais en Cagne et dans ce que j'ai lu.
Mais vous seriez capable de, aujourd'hui, définir le moment où vous avez commencé à vous imaginer enseignant, ou c'est quelque chose qui finalement s'est imposé naturellement?
Ça, je savais que j'étais condamné à être enseignant. Et c'est pas la médecine. Enfin, dans l'ascension sociale, ça n'était pas aller à Marseille ou à Montpellier ou à Paris pour faire la médecine. C'était sans conversation explicite avec mes parents, mais autour de moi, ceux qui se débrouillaient le mieux, enfants d'instituteurs ou d'institutrices, c'était pour, dès lors qu'on n'était pas scientifique, où il y avait des classes de préparation à Polytechnique ou à Saint-Cyr, dès lors que c'était pas ça, c'était l'enseignement secondaire, donc l'agrégation. Et je savais assez tôt que je voyais mes profs être profs de français, latin, grec.
Quelle place à côté de ce travail scolaire, cette compétition scolaire même, puisque vous parliez de classement, quelle place pour les lectures de plaisir?
Les lectures de versions de textes latins, de textes grecs, ont très vite cessé la place à un désir, enfin, une curiosité de lecture hors programme. D'abord parce que je trouvais dans la bibliothèque à la cave, qui avait été celle de mon grand-père, père de ma mère, autodidacte, libre penseur, de la bibliothèque universelle, je pouvais lire des choses qui n'étaient pas au programme, c'est ça qui me plaisait. Après, dans la bibliothèque de ma mère, très réduite, mais qui était une bibliothèque d'institutrices abonnées à des collections complètes d'Artem Fayard, dont je lisais des romans dès la quatrième, troisième, et dont je lisais hors programme avec passion, avec curiosité. Par exemple, si on prend les volumes que ma mère avait mis quand même dans un secrétaire fermé, parce qu'elles étaient érotiques, mais il faut voir que c'était les chroniques italiennes de Stendhal, simplement parce que c'est des histoires d'amour. Bien, dans les collections Artem Fayard de romans contemporains de ma mère, il y en a deux ou trois qui... Enfin, il y a Pierre-Louis, par exemple, que j'ai lu très tôt, parce que d'abord c'était du grec. Enfin, il parle de choses qui se passent à Alexandrie. Donc j'ai eu ces lectures hors programme, encouragé par ma mère qui m'accompagnait à une bibliothèque d'instituteurs. Vous savez, on prenait des livres pour la semaine. Et où, très vite, j'ai donc lu les romans contemporains, mais de cette époque, c'est-à-dire Jules Romain, Roger Martin Dugard. Et tout ça faisait plus ou moins ensemble avec ce que j'acceptais, j'admirais de ma mère, libre penseuse, laïque, enfin athée et féministe. Parce que je me souviens de ces conversations familiales, en milieu tout petit bourgeois d'artisans ou dans le village d'hommes se disputant en politique, les uns pour le notable local qui était médecin, maire de Nice, les autres communistes déjà, avant 39, dans le communisme municipal à la campagne, qui commençait à avoir des élus, et ma mère intervenait de haut. C'est-à-dire qu'elle le disait, mais non, c'est pas ça la politique. Elle écoutait Léon Blum à la radio. C'est là que le Front Populaire a été mon premier contact avec la vie politique, puisque autour de moi, j'ai vu comment ça révolutionnait les deux sœurs jumelles de ma mère, mon père à la banque, les occupations, le Front Populaire, les défilés, les défilés. Et donc voilà ces influences mêlées de ma socialisation.
La guerre, Jean-Claude?
Alors, oui. La guerre, je viens de rentrer à l'école primaire, il y a eu 38, 39, après le Front Populaire. Là, je me souviens encore, donc, il n'y avait que la radio, mais pour la famille, ma mère commentait le bulletin d'information. Mais quand je demandais, parce qu'il y avait la guerre civile en Espagne, les républicains et les nationalistes, c'est quoi ? Ils me disaient, oh, ça je t'expliquerai, c'est trop compliqué, la guerre d'Espagne. Mais elle était toujours un interprète, restée de gauche, elle est restée pendant le vichisme. Sa ténacité a consisté à refuser d'afficher à l'école primaire où elle enseignait, le portrait du maréchal Pétain. Mais j'ai trouvé confronté, je pense à des choix dont je n'ai eu qu'après la libération la clé, c'est comment se comporter quand en 43, mon père qui était employé au Crédit Lyonnais, tout d'un coup est requis pour le STO en Allemagne. À cette époque, j'ai vu que c'était des discussions inlassables et tendues, et c'est à la libération seulement que ma mère dit quand même, hein, heureusement, que au dernier moment, le Crédit Lyonnais a sauvé ses employés, c'était une banque, je ne sais comment, par rapport à la réquisition allemande, et mon père qui avait fait sa valise disait, tu serais allé quand même. Parce qu'elle a dû plaider, tu te comprends, moi je vais rester là, on est occupé d'abord par les Italiens, mais après par les Allemands, et puis tu vas être un réfractaire. Et mon père disait, non, il me dit, j'ai toujours pensé, je fais la valise, je réfléchis, mais je ne partirai pas. Et tu vas où, disait ma mère. Tout ça, c'est des conversations d'après la libération. Pouvait me dire, ah ben, j'irai chez mon père et ma mère, à la campagne. Il y a un petit pigeonnier dans la montagne, ma mère m'apportera mes repas, moi je me cacherai là. Comme on dit en patois, anin se scundre. Comme disaient les vieilles gens du village, pour dire, ben, quand ils reçoivent l'ordre de réquisition, les jeunes gens n'ont qu'à d'aller se cacher. Ça a été une des bases du recrutement des premiers maquis FTP.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmeau avec Jean-Claude Passeron. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Pascal Bernard, réalisation Luc-Jean Reynaud, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.